Bonjour, bienvenue à Arrêt sur le Monde. Ici Frédéric Mérand, je suis votre animateur, je suis aussi professeur de sciences politiques et directeur scientifique du CERIUM. Aujourd'hui à l'émission, on se pose la question « Pourquoi le Canada est-il un cancre du climat ?»
Feux de forêt, température extrême, les bouleversements climatiques des derniers mois ont préoccupé bien des Canadiens et des Canadiennes.
We do get heat waves from time to time every summer. The summers have been getting hotter, but you know, it's never this bad. We've never experienced anything in the 40s in Vancouver.
Depuis plus de 20 ans, le Canada a systématiquement raté ses objectifs en matière de climat. Il est le seul pays du G7 à avoir augmenté ses émissions de carbone depuis 2010. Lors de la signature du protocole de Kyoto en 1997, le Canada s'engage à réduire ses émissions d'en moyenne 6 % par rapport à 1990. Mais elles ne feront qu'augmenter entre 1990 et 2008. En 2011, le Canada se retire de l'accord international, tandis que plusieurs fonds de recherche scientifique sur le climat sont coupés, sous la gouverne du conservateur Stephen Harper. Sous Justin Trudeau, le Canada adhère à l'accord de Paris de 2015 et s'engage à réduire de 30 % ses émissions par rapport au niveau de 2005. Le gouvernement impose une tarification sur le carbone, mais achète, en parallèle, le pipeline Trans Mountain pour transporter du pétrole des sables bitumineux de l'Alberta vers la Colombie-Britannique. L'exploitation d'énergie fossile représente à elle seule plus du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Cette industrie rapporte des milliards et emploie 600 000 personnes au pays. Mais elle représente un frein à la lutte contre les changements climatiques. Et même si l'extraction pétrolière est lucrative, elle entraîne depuis des années des pertes. En 2019, produire pour 131 milliards de dollars de pétrole en a coûté 133 milliards. En 2018, les pertes s'élevaient à plus de 11 milliards de dollars. À l'été 2021, le gouvernement canadien annonce de nouvelles cibles. Pendant la campagne électorale, les libéraux ont promis de mettre fin aux subventions aux énergies fossiles en 2023, ainsi que de hausser le prix de la pollution. Reste à savoir si la volonté politique ainsi que l'acceptabilité sociale seront au rendez-vous, car tandis que le Canada se réchauffe à un rythme deux fois plus élevé que le reste du globe, la population canadienne, elle, consomme comme si elle avait quatre planètes à sa disposition. Mais pour combien de temps encore?
Au lendemain de l'élection fédérale qui a reconduit Justin Trudeau et son parti libéral au pouvoir, nous nous interrogeons sur le rapport entre le Canada et ses engagements climatiques. Pourquoi est-ce que le pays, qui a pourtant souvent renouvelé ses engagements en faveur de l'action climatique, a tant de mal à réaliser ses engagements? Pour en discuter, je reçois un des meilleurs spécialistes du sujet, Pierre-Olivier Pinault, qui est professeur titulaire à HEC Montréal, où il est également le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Bonjour Pierre-Olivier.
Bonjour Frédéric.
Peut-être qu'on peut commencer par cette question très simple. Le Canada affiche constamment sur la scène internationale des engagements assez ambitieux et pourtant, année après année, non seulement il ne les réalise pas, mais on a presque l'impression qu'il prend du retard. Alors, comment expliquer ce décalage entre les ambitions et les réalités?
Mais je pense qu'il y a plusieurs causes, évidemment, mais la principale cause, c'est la difficulté à changer nos habitudes de vie. Parce que changer la consommation d'énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça implique forcément à la base de consommer différemment. Et on est une société qui adore les voitures. En Amérique du Nord, ça fait partie de notre ADN, le véhicule, ça fait partie du American Way of Life, d'avoir des véhicules privés, d'avoir l'autoroute pour nous, l'horizon qui est dégagé et on dévale sur les routes comme ça. Donc, c'est un peu un rêve, c'est un peu un fantasme. Dans la réalité, on est bien plus souvent pris dans la congestion et à réparer des voitures, à payer des stationnements, à changer sa voiture de bord de la rue pour le stationnement que à découvrir la nature dans son véhicule. Mais Cette difficulté de l'action, à mon avis, explique pourquoi les gouvernements, d'un côté, affichent des politiques très ambitieuses, mais savent que dans le système électoral actuel, c'est très difficile de proposer des programmes qui concrètement vont fondamentalement changer notre rapport à l'automobile et à l'occupation du territoire.
Alors, il y a deux enjeux. Il y a les consommateurs d'une part et il y a les gouvernements de l'autre. Évidemment, les deux sont liés, mais essayons de les diviser un petit peu pour notre discussion. Commençons par les consommateurs. Je suis d'accord avec vous. En arrivant à l'Université de Montréal ce matin, j'ai été frappé que les embouteillages ont repris. L'auto-solo domine très, très largement sur les routes de Montréal, comme partout au Québec et au Canada. Malgré le fait que lorsque l'on fait des sondages, les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois, les Québécoises disent qu'ils sont préoccupés par les changements climatiques. Alors, si on regarde juste les consommateurs, comment faire changer les mentalités? Est-ce que ça passe par la réglementation, la sensibilisation, la contrainte? Qu'est-ce que vous suggérez?
C'est évident que tout le monde est pour la vertu. Alors tout le monde se dit préoccupé. Enfin tout le monde, beaucoup de gens sont pour la vertu et se disent préoccupés. Il faut un ensemble d'éléments pour pouvoir changer les manières de faire et les pratiques. Un exemple qui est très parlant à mon avis, c'est celui du tabac. Pour le tabac, on n'a pas gagné la guerre contre le tabac, mais on a véritablement baissé les taux de tabagisme et fait reculer le tabac, la consommation du tabac dans la société. Qu'est-ce que les gouvernements ont mis en place? Mais ils ont mis en place des taxes sur les cigarettes, la réglementation pour limiter la possibilité de fumer dans différents endroits. Et aussi, ils ont beaucoup informé la population des méfaits du tabac. Et avec des images notamment, mais des publicités. Ils ont interdit la publicité pour le tabac et par ailleurs mis des informations concrètes sur les liens avec le cancer, autant du tabac que de la fumée secondaire. Donc, pour l'automobile et la consommation de pétrole, c'est inévitable que pour avoir des programmes efficaces, il faut à la fois mettre davantage de contraintes financières, des taxes, réglementer l'accès au stationnement, donc limiter l'accès au stationnement, mieux réglementer la prolifération et l'augmentation du parc automobile et informer aussi les gens que ça va leur coûter moins cher de prendre l'autobus, ils vont être en meilleure santé et qu'en bout de ligne, la qualité de vie de tout le monde va être améliorée, notamment la qualité de vie très individuelle des automobilistes. S'ils sortent de leur voiture, ils ont des bonnes chances d'avoir plusieurs gains personnels. En utilisant davantage de transports actifs et collectifs.
Mais cette volonté politique dont vous parlez, bon, elle s'applique évidemment au gouvernement à l'échelle nationale, mais moi, une chose, en tant qu'observateur de la scène internationale qui me fascine, c'est le fait que, année après année, depuis près de 30 ans, le gouvernement canadien va dans les grands forums internationaux, dans les COP, réitère des engagements. Comment se fait-il que les autres pays continuent à prendre le Canada au sérieux alors qu'il a, comme je le mentionnais en introduction, systématiquement failli à réaliser ces diminutions de gaz à effet de serre?
Ben, malheureusement, on n'est pas les seuls dans ce groupe-là des pays qui n'ont pas beaucoup réduit. C'est certain que les pays européens sont beaucoup plus sérieux dans leur action, mais eux aussi ils font face à des problèmes. On peut penser aux gilets jaunes en France et beaucoup de pays européens, même s'ils sont ils sont bien mieux engagés dans la lutte contre les changements climatiques. Ils ont aussi des écueils. Donc, ils se sentent mal placés pour lancer des blâmes. Les Américains, évidemment, font piètre figure aussi, parce que peut-être qu'ils ont l'avantage d'être un peu moins hypocrites en annonçant moins des ambitions élevées, mais ils sont vraiment, véritablement dans le même paquet que le Canada, là, à avoir, à l'occasion des présidents qui ont des grandes ambitions, comme Obama ou Joe Biden, mais finalement assez peu de pouvoir et d'agir et assez peu d'impact sur les émissions du pays. Elles ont baissé aux États-Unis grâce au gaz de schiste et au fait que le charbon a pu grandement diminuer dans la consommation et la production d'électricité aux États-Unis, mais c'est pas vraiment des programmes gouvernementaux ou une volonté gouvernementale qu'on menait à ça, c'est vraiment le marché de l'énergie qui a favorisé le gaz naturel et permis de faire sortir du charbon. Donc, c'est plus la conjoncture. Et donc, comme les Américains sont vraiment le nœud du problème, avec évidemment la Chine qui voit ses émissions augmenter énormément, tout ce contexte général-là fait, à mon avis, en sorte que le Canada est toléré malgré ses échecs.
Alors, si on se tourne vers le Québec maintenant, on a l'impression qu'il y a deux grands boucs émissaires. L'un d'entre eux, c'est la Chine. Vous venez de le mentionner. Dans quelques instants, j'aimerais bien aussi qu'on passe quelques minutes au moins sur la Chine. Mais il y a aussi l'Alberta, le fameux pétrole albertain, les oléoducs qui viennent de l'Alberta. C'est un vrai problème pour les Albertains eux-mêmes, cette reconversion vers une économie sans carbone. Si on veut atteindre la carboneutralité en 2050, ça ne peut pas se faire avec la production de pétrole albertain. Comment est-ce qu'on transforme une société, une économie en profondeur comme celle de l'Alberta quand il reste très peu de temps pour le faire?
Ça va être très difficile. Ça serait plus facile si les Albertains avaient une meilleure conscience de l'ampleur du problème et des alternatives. Ils ont eu des gouvernements historiquement qui avaient tendance à ne pas diversifier l'économie de l'Alberta, donc et à miser énormément sur les hydrocarbures. Il y a eu un bref intervalle avec le NPD au pouvoir qui a permis de ramener l'Alberta un petit peu dans un chemin un peu plus prometteur, mais évidemment avec le retour des conservateurs au gouvernement d'Alberta, on s'est rééloigné de cela. Donc, en fait, c'est possible d'être pessimiste parce que non seulement les Albertains, mais les Canadiens d'une manière générale vont être très très difficiles à faire évoluer. Mais pour l'Alberta, en fait, la recette est claire. La production de pétrole devra diminuer avec la consommation. Donc, il faut d'abord montrer que la consommation mondiale peut baisser pour montrer le chemin aux producteurs que c'est un marché en déclin. Donc, on a notre rôle à jouer nous-mêmes en tant que consommateurs. Il faut qu'on consomme moins de pétrole. Si le marché décline, après, l'Alberta aura un signal de marché qu'il faut passer à autre chose. Et si elle est brillante, eh bien, elle va par elle-même diversifier son économie et passer à d'autres secteurs. La Norvège le fait très bien, diversifier son économie. Et on sait qu'il y a des pays sans ressources naturelles comme l'Allemagne ou le Japon qui ont réussi à innover sans avoir de ressources naturelles. Donc, on sait qu'on peut avoir des économies prospères avec peu de ressources naturelles et on sait qu'il y a des économies avec beaucoup de ressources naturelles qui ont réussi à se diversifier. Et donc, l'Alberta doit simplement… progressivement, mais aussi agressivement, regarder les alternatives et faire de l'introspection pour réduire sa propre consommation d'énergie. Parce que, être un très gros producteur, l'Alberta est un immense consommateur d'énergie dans tous les secteurs, autant en transport que dans le secteur résidentiel ou commercial. Les Albertains consomment beaucoup d'énergie.
Alors, la Chine maintenant. On entend souvent l'argument selon lequel le Canada ne produit que 2% des gaz à effet de serre, donc c'est une goutte dans l'océan. Le vrai enjeu, c'est la Chine où ses émissions de gaz à effet de serre augmentent de manière considérable. En même temps, de l'autre côté, le gouvernement chinois dit c'est vrai que nous produisons davantage aujourd'hui de GES, mais historiquement, nous rattrapons un retard par rapport aux pays occidentaux, en fait. Comment est-ce que la Chine va réussir à diminuer ses gaz à effet de serre? Est-ce qu'elle en a l'ambition? Est-ce que vous êtes confiant dans le rôle positif que la Chine peut jouer au cours de la prochaine décennie?
Mais encore une fois, ça va être difficile. On parle de la Chine et c'est parce que c'est un pays unifié, comme on le sait, mais c'est un pays immense avec différentes provinces. Et donc, si ça correspondait à plusieurs pays, eh bien, ça serait différents pays qui seraient noyés dans un échiquier mondial. Un autre élément qu'il faut rajouter pour défendre la Chine, c'est que une grande partie, enfin une bonne part, peut-être autour de 20% des émissions chinoises sont liées aux exportations. Ces 20 dernières années, on a délocalisé beaucoup de la production de nos propres biens de consommation en Chine. Et donc, c'est la Chine produit pour nous plein de biens et de produits, ce qui fait qu'on est aussi responsable des émissions de la Chine. Mais la Chine est la première à souffrir des émissions de gaz à effet de serre. Elle vit différents problèmes environnementaux qui sont extrêmement profonds. Quand on regarde la source principale des émissions de gaz à effet de serre en Chine, c'est le charbon. L'électricité en Chine vient du charbon. Ça vient avec une pollution de l'air extrême. On a tous entendu parler d'événements ou de périodes où la qualité de l'air dans les grandes villes chinoises était si mauvais qu'il fallait rester à l'intérieur, ou que même pendant les Jeux olympiques de Beijing, on a dû fermer les centrales au charbon et des industries pour justement améliorer la qualité de l'air. Donc, les Chinois ont conscience de ça. Ils vivent des problèmes environnementaux majeurs de différents types. Et ils sont arrivés à un stade où, oui, il faut les prendre au sérieux dans leur lutte au changement climatique, parce qu'eux-mêmes vont être les premiers à en bénéficier. Donc, ça va être difficile comme pour tout le monde, mais c'est possible et ils sont engagés là-dedans. quand on regarde le déploiement des énergies renouvelables, la Chine est systématiquement première dans le déploiement d'éolien, d'énergie solaire, d'énergie hydroélectrique. Donc, ils sont extrêmement engagés dans cette voie-là. Et en termes d'électrification des transports, ils sont aussi extrêmement sérieux.
Alors, en terminant sur le Canada, je l'ai mentionné plus tôt, c'est difficile à croire que le Canada puisse réduire autant ses gaz à effet de serre au cours de la prochaine décennie, considérant que le pays n'a presque rien fait pendant 20 ans. En même temps, il y a maintenant une taxe carbone, un nouveau gouvernement qui réitère son engagement. Est-ce qu'il y a des raisons, selon vous, d'être optimiste quant à la stratégie de réduction des gaz à effet de serre canadienne sur la prochaine décennie?
En fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons d'être optimiste. La première, comme vous dites, c'est qu'on a un gouvernement et plusieurs partis politiques qui sont extrêmement engagés dans cette voie-là. Même les conservateurs, aux dernières élections, avaient un programme vert et de lutte contre les changements climatiques bien meilleur que tous les programmes qu'ils avaient mis de l'avant auparavant. Donc, un programme presque sérieux, je dirais, de lutte contre les changements climatiques. Donc, on a une certaine unanimité. Et l'autre très bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'outils pour agir. Au niveau du transport, on sait quelles sont les choses à faire. Pour les bâtiments, on sait comment réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments. On sait aussi que l'alimentation, c'est très clair qu'il y a des tendances vers le végétarisme pour réduire la consommation de protéines animales. C'est très important dans les gaz à effet de serre. Le secteur de l'agriculture qui est essentiellement lié à la production de l'élevage animal et de production de protéines animales. Donc, on a une panoplie d'options qui sont disponibles. Les technologies sont là comme jamais pour nous aider. Et ça, c'est très positif. Nos gouvernements sont engagés aussi. Maintenant, est-ce que du côté des consommateurs et des électeurs, on va avoir la sagesse d'accepter les programmes et les contraintes inévitables qui vont nous permettre de réaliser ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre? Mais c'est la grande question. Les humains sont pas très bons d'une manière générale pour s'imposer des contraintes et se discipliner, mais il va le falloir. Et avec une mobilisation collective, avec les outils technologiques qui nous montrent que des alternatives sont possibles, je crois qu'il y a quand même lieu d'entretenir un optimisme.
C'est ce qui conclut notre émission sur le Canada et le climat. Merci infiniment, Pierre-Olivier Pinault. J'invite nos auditeurs et nos auditrices à suivre les travaux que vous menez au sein de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. J'en profite également pour remercier le LAM de la Faculté des arts et des sciences, Savoir Média, l'Agence France Presse, le Cerium, notre recherchiste Emma, qui nous permettent de faire quelques instants un arrêt sur le monde. À très bientôt. Au revoir.